Bonjour et bienvenue à Portrait Vivant, l'émission radio qui esquisse un tableau en mouvement de la communauté artistique de l'École d'art de Sutton. Ensemble, allons à la rencontre des artistes, des jeunes créateurs et des œuvres qui façonnent cette institution incontournable du paysage culturel de l'Estrie. Je m'appelle Ayona, artiste en art visuel. Mon parcours m'a mené aux quatre coins du monde, guidé par une quête d'apprentissage et de rencontres. J'ai fini par m'installer ici, en Estrie, où je découvre une véritable boîte au trésor de personnes engagées, passionnées par leur travail, avec des valeurs d'entraide et de coopération. Aujourd'hui, à Portrait Vivant, nous allons explorer les printemps de l'architecture, un événement culturel et éducatif organisé par l'École d'art de Sutton annuellement, qui célèbre l'architecture sous toutes ses formes. À travers des expositions, des conférences, des ateliers et des activités spécialement conçues pour les jeunes, les printemps de l'architecture mettent en lumière l'importance du patrimoine bâti, de l'innovation en design et de la créativité dans l'aménagement des espaces de vie. Ces événements annuels rassemblent architectes, artistes, éducateurs, jeunes et membres de la communauté, afin d'initier des dialogues passionnants sur le rôle essentiel que joue l'architecture dans notre quotidien et son influence sur le développement durable et culturel de la région. Je suis ici avec Anne-Marie Lavigne, la fondatrice et directrice artistique de l'École d'art de Sutton. Anne-Marie, comment est-ce que ça a commencé pour toi, les printemps de l'architecture?
Les printemps ont commencé au printemps. Donc, c'est une magnifique saison d'éveil. Le printemps, c'est l'occasion pour nous de, au sortir de l'hiver, là, il y a vraiment des grands vents, les branches cassent. À la campagne, c'est comme souvent les dernières neiges là, du mois de mars. Et en avril, des apparitions là, de la nature qui se réveille, là, et puis des fleurs. Donc, c'est vraiment comme un moment idéal pour réfléchir sur ensemble, là, sur notre savoir-vivre ensemble. Puis, est-ce qu'on souhaite se construire? Est-ce qu'on souhaite se déconstruire? Est-ce qu'on souhaite créer des jardins, réfléchir l'urbanisme, est-ce qu'on veut parler d'architecture, du paysage, est-ce qu'on se donne un budget pour la construction d'une nouvelle aile ou une nouvelle partie de bâtiment. Donc, c'est l'idéal pour faire des printemps un chantier de réflexion. Mm-hmm. Donc, c'est la réflexion sur le sujet de l'architecture. Et notre objectif de base, c'est de donner ce lexique, ce langage, ce vocabulaire aux enfants. Une des grandes inspirations pour moi en architecture, c'est Christopher Alexander, qui a écrit le livre que l'architecture est un « pattern language ». C'est un langage qui a des motifs. Et si on comprend l'architecture comme un langage, ben on peut apprendre ce langage et ensuite pouvoir parler ce langage et faire en sorte que l'architecture soit holistique. Donc, plutôt que de regarder, encore une fois, l'architecture en silo, on a la lumière, on a la circulation, on a la communauté, on a les plantes. C'est vraiment un monde merveilleux de rêves. Et quand on est enfant, un des jeux que les enfants affectionnent particulièrement, c'est justement des jeux de construction. C'est comme s'ils étaient des géants, puis ils jouent dans un carré de sable pendant des heures à construire des villes ou des chemins ou des tunnels. Donc, de pouvoir prendre cette occasion-là de travailler l'architecture avec les enfants à l'école d'art. Nous, étant donné que notre mission, c'est la rencontre des enfants avec les artistes, c'est la saison pendant laquelle on s'assure que les enfants rencontrent des architectes. Et donc ça, c'est l'origine de tout le projet.
Le projet des Printemps de l'architecture évolue depuis près de 10 ans. Depuis ses tout débuts, dans un garage sur Western, où la fondatrice a créé un camp en collaboration avec une architecte locale pour initier les jeunes à l'architecture qui ont pu exposer leurs œuvres au Palais des Congrès à Montréal. Jusqu'à maintenant, j'ai aujourd'hui rassemblé plusieurs collaborateurs au travers des années qui vont nous donner un aperçu de leurs projets avec les printemps, ainsi que l'importance d'initier les jeunes à l'architecture dès un tout jeune âge. Restez à l'écoute. On va maintenant rencontrer Maxwell McComber, un jeune ayant participé au camp d'architecture de l'École d'art.
Donc, bonjour. Moi, mon nom, c'est Maxwell McComber. J'ai grandi à Sutton. Je suis déménagé ici quand j'avais 1 an. Puis, c'est ça, j'ai fait l'École d'art quand, je sais pas, j'avais quel âge... 9-10 ans, quelque chose comme ça. Puis c'était un camp d'architecture. Puis ça m'a beaucoup inspiré. J'ai beaucoup apprécié ça. Je pense que ça m'a donné une direction un peu... une vision de ce que je voulais. Je pense que c'était une semaine où ce que... en fait, on avait plein de visiteurs. On a eu la mère à mon amie Rebecca Bourque qui est venue. Puis c'est une architecte. Puis dans le fond, il fallait qu'on... on s'inspire de différents architectes qu'on trouvait inspirants, puis trouver des choses qu'on aimait, puis essayer de les intégrer dans un projet à nous. Puis à la fin de la semaine, on avait une exposition. Puis moi, j'avais fait... l'idée, c'était de faire, je pense, l'École d'art. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'est drôle qu'on se retrouve ici. Finalement, ça n'a pas pris la direction de la nouveauté, mais on a... moi, j'avais fait... un building assez innovateur. Je vois définitivement la vision artistique qu'il y a en arrière. Ben, pas de mon projet, mais comme de ce qu'Anne-Marie voulait faire dans le temps. Mm-hmm. Ça a vraiment incarné ici l'esprit de l'École d'art, je pense. Et en ce moment, j'étudie à Montréal en arts et lettres. Puis c'est ça, je pense vraiment ces influences-là, de grandir à Sutton... je sais pas pourquoi, c'est une ville, on dirait que ça a collecté des esprits créatifs puis des gens qui sont vraiment y ont réussi. Puis je pense qu'à Sutton, il y a beaucoup d'influence puis ça a beaucoup pris partie dans ma jeunesse. Mm-hmm. D'être en contact avec ça, ça a vraiment... ça m'a donné comme cette aspiration de devenir créatif puis de faire des choses créatives. Ouais.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxwell.
Ça fait plaisir.
Je m'appelle Emmanuelle Titley, je suis architecte paysagiste, j'habite à Sutton depuis une dizaine d'années et je fais de l'architecture de paysage depuis environ 30 ans.
Bienvenue Emmanuelle, donc tu es collaboratrice de longue date avec l'École d'art de Sutton. Est-ce que tu peux me décrire peut-être un des projets que vous avez réalisés ensemble?
Oui, on a fait... un atelier, en fait, un camp, il y a quelques années, durant la semaine de relâche sur l'architecture de paysage. Ça s'appelait le camp Jardin d'hiver. Donc, c'était très chouette. On avait été quelques années. C'est de revenir à la source de ce qui fait que c'est stimulant de faire ce métier-là, puis de revenir aussi à la créativité plus pure, je dirais, là, qui est peut-être des fois moins présente dans le travail de tous les jours, dans une boîte d'architecture de paysage. Donc, c'était de retrouver ce plaisir-là de jouer avec des matériaux, avec des formes, avec des maquettes, chose qu'on fait maintenant rarement. Donc, c'est très chouette. Je pense que ça m'a donné un petit boost de plaisir que j'ai pu ramener dans mon travail. ce qui est vraiment pas négligeable. Puis l'autre chose, justement, c'était de me rappeler des techniques qu'on utilise moins maintenant, là, qu'on est beaucoup dans le numérique, qui sont beaucoup plus de l'ordre du bricolage ou de montage photo, par exemple, avec des vraies images plutôt que de faire ça à l'ordinateur, qui apporte toute une autre façon, je pense, de réfléchir, puis de qui nous rappelle en fait que ça vient stimuler la créativité d'une autre manière que de simplement travailler à l'ordinateur. Donc, je pense que c'est ça que ça m'a rapporté. Puis aussi de voir des jeunes qui découvrent, ça redonne un intérêt, mettons, renouvelé par rapport à ce que nous, on aime déjà. Mais de voir qu'il y a d'autres gens qui trouvent ça intéressant, ben ça, c'est sûr que ça nous redonne de l'énergie, comme je disais tantôt, là, qui est très, très positive. En fait, je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes à toutes sortes de formes d'art, parce que ça fait partie de la découverte, je pense, du monde. Puis en fait, je pense que pas seulement les jeunes, ça devrait être... Ça devrait faire partie d'une tenue de vie, là, selon moi. Là. Mais je pense que c'est intéressant de que les jeunes soient initiés à plein de formes d'art pour voir un peu ce que ça fera eux, puis pour comprendre davantage le monde qui les entoure, puis tout ça pour stimuler leur imagination de toutes sortes de manières, de voir qu'il n'y a pas seulement les formes d'art peut-être qu'ils voient à l'école traditionnelle. Donc, je pense que ça, c'est intéressant de tous les programmes qu'on va faire à l'école d'art, justement, par rapport à ça, parce que ça va au-delà de ce qu'ils voient à l'école. Donc, c'est très chouette.
Je m'appelle Marie-Sophie Bergeron. J'ai eu le privilège d'être la responsable de la programmation pendant 3 ans presque à l'école d'art. À partir de cet été, je suis donc essentiellement une amoureuse des arts, mais surtout quelqu'un de profondément curieux. Je suis curieuse de l'humain, du beau. J'ai un background en communication, donc on pourrait dire que je suis une communicatrice, mais aussi une designer à mes heures et une future bibliothécaire. C'est un retour aux études là, qui m'a amenée à migrer de mon poste de responsable de l'école d'art, puis de relever de nouveaux défis. Mais essentiellement, ce défi-là, il s'articule toujours là autour d'une intention qui revient dans ma vie, qui est celle de créer des moments de partage, de co-construction, de sens et de transmission. Ça m'anime beaucoup là, de créer des souvenirs significatifs dans la vie des gens, surtout en passant par la démocratisation de l'art et du savoir. C'est ce qui m'anime beaucoup, là. C'est ce qui me fait c'est ce qui fait briller mes yeux là, quand je discute de tout ça. Puis c'est ça, en fait, mon rôle là, de responsable de la programmation à l'école d'art au cours des 3 dernières années, ça m'a permis, là, avec évidemment le savoir-faire et le savoir-être des merveilleux collègues que j'ai rencontrés, mais ça m'a permis de vivre et de créer une panoplie de ce genre de moments-là. pense que l'édition 2024 des Printemps d'architecture à l'École d'art l'année dernière, c'est un des très bons exemples de réussite, de projet réussi. En fait, on a, puis pour moi personnellement, c'est une grande fierté aussi. Là, j'ai eu beaucoup de plaisir à générer, créer ça avec l'équipe. Mm-hmm. Puis je pense que ça s'est ressenti aussi dans les visites, mm-hmm. Puis auprès des visiteurs qui sont passés nous voir. Donc, l'idée, en fait, avec cette édition-là, c'était de rassembler, en fait, d'investir tous les lieux de l'école le plus possible avec les souvenirs, les créations des années antérieures. C'était de rendre un peu hommage là, à nos collaborateurs de longue date aussi. Je pense à la firme In Situ, à la maison d'architecture avec Sophie Gironi, mais également là, Pierre et l'équipe de l'atelier Pierre Thibault. Mm-hmm. Et d'inviter, de créer des nouvelles collaborations, notamment la firme Pelletier de Fontenay, un cabinet d'architecture montréalais, à qui on a légué là, une salle pour monter une exposition unique et une première, en fait, qui se concentrait sur le Lab École de Schaeffer, donc qui est un projet architectural d'une école primaire en Estrie. C'était donc là, c'est eux qui étaient une des firmes en consortium le responsable de la construction de ce projet-là. Puis ils ont choisi d'investir l'espace qu'on appelle l'Atrium, qui est un très beau lieu d'exposition avec un grand puits de lumière où, en fait, beau temps, mauvais temps, on a l'impression que c'est une journée lumineuse. Donc, ce qu'on visite est un peu sublimé naturellement. Et puis, il y avait de tout. Donc, il y avait vraiment là, du passé, du présent et du futur en rendant hommage notamment là, au Lab École. Puis, voilà, c'était en fait de se dire que l'architecture, c'est toutes les temporalités, c'est aussi tout type de lieu. Puis, je pense que par la richesse des espaces de l'École d'art, on a été capable de créer ces environnements immersifs-là.
Absolument. Et c'est tellement bien décrit, Marisol. C'est une exposition que j'ai vraiment adorée, et ma famille aussi. Quelle expérience souhaitais-tu offrir aux visiteurs, en fait, quand ils entraient dans ces espaces-là?
On voulait qu'ils se sentent chez eux. Je voulais qu'ils atterrissent à un endroit qui leur était, qui avait une émotion de familiarité, qu'ils se sentent tout de suite à l'aise là, d'investir tous les espaces, de découvrir, de courir. Je voulais que chacun y trouve son compte aussi, pour que justement les familles, donc les parents, les enfants, les oncles, les tantes, les grands-mères, les grands-pères le puissent avoir des lieux qui reflètent leurs intérêts, qu'il y ait un vocabulaire qui soit adressé aussi à cette tranche d'âge-là, donc que tout le monde puisse vraiment c'est ça, découvrir, en apprendre sur l'histoire de la région, sur ce qui a été construit avant nous, puis c'est ce qui est à construire pendant et après nous. Donc, ouais, je voulais. On s'est fait plaisir aussi avec l'équipe, là. C'est des stations de jeu pour les enfants. On a sorti là, tous les livres d'une très belle collection de livres à l'École d'art de Sutton. Puis il y en a une belle collection sur l'architecture. Donc, on a pris soin de les sortir puis de les exposer pour les rendre accessibles à la consultation aux visiteurs. Et comme ça, pendant que les enfants exploraient dans les stations de jeu, il y avait les parents, les grands-parents à côté qui pouvaient se déposer, ouvrir un bon livre ou se permettre même de regarder un documentaire sur le grand écran qu'on a rendu disponible au centre de notre pièce centrale. Donc voilà, c'était vraiment de permettre à tous d'avoir un peu du plaisir à toutes sortes d'échelles, puis de s'approprier vraiment les lieux, de se sentir à la maison tout en continuant d'apprendre. Puis je pense qu'en leur donnant des occasions comme ça de découvrir des nouveaux métiers, de découvrir l'importance du cadre bâti, bien, ça leur donne confiance. Ça leur envoie le message là, que tout est possible, qu'ils peuvent créer la magie. On leur présente les outils pour le faire, le cadre, la rigueur que ça prend. Puis on leur dit en fait que tout passe par l'expérimentation, par le fait d'oser tester, oser créer, le faire. Puis d'apprendre à connecter là, finalement à travers avec les autres à travers ces moments-là. Comprendre finalement que les plus sages de nos sociétés, les personnes d'expérience, les artistes, les gens qui nous entourent, ont ce pouvoir-là de transmettre avec confiance. puis de créer donc ces moments-là, tous ces cocons créatifs-là, ben je pense que ça leur donne peut-être un peu plus d'outils là, pour se dire que ma voix fait partie des projets, fait partie et est valide. Donc ce sentiment-là, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut offrir à des enfants dans le dialogue, évidemment. Là.
D'après toi, pourquoi est-ce qu'il est important de sensibiliser les jeunes à l'architecture dès un jeune âge?
Ben, c'est vrai tout à fait que c'est une question importante à se poser, puis ça fait écho au point précédent là, avec notre intention de rendre hommage aux réalisations des enfants. Parce que je pense que concrètement, d'avoir ces moments-là, ça leur permet de développer leur sens critique, leur rapport à l'esthétique. L'architecture est autour de nous, là. C'est la base de nos sociétés, de notre environnement bâti. Fait que ça stimule d'être dans ces moments-là, ça stimule les sens, la capacité d'analyse, puis évidemment la créativité. Mais je pense aussi que ça leur donne un aperçu de ce que c'est la citoyenneté, t'sais, de faire partie du collectif à travers nos environnements. Ça permet là, d'avoir un aperçu des enjeux sociaux, culturels, mais environnementaux aussi là, que finalement le vivre ensemble amène. Puis l'architecture, c'est pas juste nos maisons à nous, ça fait partie de ça, mais c'est aussi nos institutions publiques, c'est la ville, le village, la MRC, la province, c'est plein d'échelles qui se rencontrent. Puis ça leur donne donc cette espèce de perspective-là dans le monde. Évidemment, bon, ça stimule la collaboration. Puis je pense que ça devient, surtout à notre époque, là, une belle fenêtre d'apprentissage pour se sensibiliser aux enjeux écologiques, de développement durable, de recyclage. L'architecture est au cœur de par le fait de construire, d'utiliser des ressources. Est au cœur de ces questions-là. Donc, le fait d'avoir à s'y confronter, à se poser ces questions-là en tant que jeune, ben nécessairement, ça amène une expérience là, qui est très formatrice, je pense, sur ces questions-là qui sont primordiales de nos jours. Fait que c'est pour ça, je pense, en fait, ça vient rappeler peut-être toutes tes questions, cette belle question-là qui est pourquoi c'est important de se sensibiliser à l'architecture, puis même adulte, j'aurais envie de dire, puis de se questionner, puis d'ouvrir la porte de la curiosité à ce sujet-là. C'est que ça nous ramène au « nous ». On se sort un peu du « jeu », puis là, on a la vision de l'échelle collective qui est parfois trop oubliée là, par les temps qui courent.
C'est vraiment une vision unique de rassembler les architectes et les jeunes d'une telle manière. On a eu beaucoup d'exemples d'événements à succès à l'École d'art. Maintenant, on a le maire de Sainte-Anne, Robert Benoît, qui va venir nous parler du soutien municipal.
Moi, je viens plusieurs fois par année parce qu'il y a plusieurs événements et c'est un secteur très dynamique. Pour moi, c'est un lieu culturel très important à Sutton. Alors qu'on se pose toutes sortes de questions sur nos infrastructures, je pense qu'ici, c'est une infrastructure qui mérite d'être développée. Et c'est ce que le conseil d'administration, c'est ce que les propriétaires font à l'heure actuelle. Alors nous, à la Ville, clairement, nous les appuyons. Et d'abord, mes valeurs personnelles, parce que ça part de là, en fait. Hein. Puis moi, c'est sûr qu'ayant eu des enfants... Je pense qu'il faut développer tout le potentiel des enfants. Puis, alors, le côté académique est important, mais le côté, si vous voulez, artistique, le côté de la personnalité, le côté de l'apprentissage, le côté de la socialisation, c'est majeur. On vit dans un monde à l'heure actuelle où l'éducation est remise en question. Il y a des coupures des gouvernements. Moi, je suis très préoccupé par ça. Puis il y a beaucoup de... Donc, les parents... sont obligés de remplacer, dans certains cas, tous les côtés pédagogiques, nous, ce qu'on avait comme activités pédagogiques qui sont coupées, etc. Alors, je pense que une institution comme l'école d'art ici, moi, je viens l'été, par exemple, pour voir le travail des enfants. Je participe avec des enfants. On a fait des projets même d'architecture avec les enfants pour designer un poste, pas un poste, mais un pont pour traverser la rivière. Que moi, je pense qu'il faut encourager. Puis ici, on a la chance aussi d'avoir une école très dynamique. L'école Island, ici, qui est une école bilingue, en plus. Et donc, qui permet justement aux enfants de socialiser en français puis en anglais. Puis c'est des gens qui innovent des projets. Ils viennent à l'hôtel de ville. On fait un conseil municipal spécial, justement, avec les enfants qui viennent présenter des résolutions puis des projets. Fait que, oui, personnellement, donc, je crois beaucoup à ça. Puis, on est chanceux d'avoir une communauté, autant à l'école, les professeurs qui ont la même approche du côté développement des potentiels. Ici, on avait, par exemple, il y a 2 ans, je pense, un atelier de photographie. Les jeunes ont fait des photos vraiment extraordinaires. Donc, je pense qu'on a donc la chance d'avoir une école dynamique, la chance d'avoir un groupe, puis la chance d'avoir, donc, ici, à l'école d'art. Et puis à la ville, on a un petit groupe de 3 personnes aux loisirs communautaires qui ont cette approche-là. Alors, je pense que la force de Sutton, c'est de mettre tout ce monde-là ensemble puis de faire des réalisations pratico-pratiques.
C'est super. Et c'est fascinant, votre projet de pont de réalisation architecturale avec les enfants. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus?
Bien, on a un projet, en fait, on a obtenu une subvention très importante actuellement de ce qu'on appelle, c'est le gouvernement du Québec via le fonds, le FAQDD, le Fonds d'action québécoise en développement durable. Mm-hmm. Puis le projet pour nous, qui est un projet important, là, on a eu une première phase de 250 000, puis un autre de 400 000, donc 150 000 pour développer un sentier. Puis on veut développer un sentier dans le village ou à proximité du village, et non pas actuellement, on a le village montagne qui part jusqu'en haut, mais où c'est presque saturé à certains moments donnés. Alors, on voudrait, puis c'est quand même plutôt sportif, là, d'une certaine façon, surtout si vous accédez à Oupens en haut à la montagne. Donc, on aimerait avoir un sentier qui est plus accessible aux parents, aux familles, aux enfants, puis qui met en valeur le terroir, met en valeur les paysages, met en valeur la rivière et tout ça. Donc, on aimerait ça éventuellement connecter l'école d'art avec D'art et de rêve, qui est à l'autre extrémité du village, qui est une autre entreprise culturelle où il y a, on voudrait développer une symbiose un peu entre les deux, puis si on pouvait développer un sentier où on pouvait marcher en même temps. Puis là, ben, le truc, il y a la rivière Sutton, donc il faut traverser la rivière Sutton. Alors, ce serait l'idée, éventuellement, c'est d'avoir un pont. Puis la ville est propriétaire d'un terrain de l'autre côté de la rivière pour lequel il y a d'autres possibilités de développement d'activités pour la communauté.
On est maintenant rejoint avec Sophie Gironnet, journaliste de l'architecture et fondatrice de la Maison de l'architecture au Québec, qui va nous partager ses réflexions sur la façon dont les initiatives comme le Printemps de l'architecture à Sutton façonnent l'identité communautaire et locale et renforcent l'engagement des citoyens envers leur environnement bâti.
Donc, on a commencé avec des amis architectes, on a fondé cet organisme qui est un centre d'artistes autogéré. Donc, on est sur ce modèle-là. Les artistes étant les architectes. Ouais. Et on a donc démarré dans l'édifice Belgaud avec un tout petit espace. Et puis ensuite, on s'est installé sur la face nord du Palais des Congrès. Donc on était en plein centre-ville avec un lieu de 1000 pieds carrés d'exposition et on a tenu comme ça pendant 20, presque 25 ans. Mm-hmm. Puis, quelque part, autour avec la France, avec la Colombie-Britannique, on a fait vraiment des choses d'envergure. Et puis, des publications, enfin, tout un tas de trucs, débats, conférences, publications, concours de journalisme, concours de... Enfin, bref, ouais, on a fait toutes sortes de choses, le but étant de donner envie au public de connaître l'architecture qui se fait, d'être impliqué, et puis donner envie aux architectes aussi de recroire à la possibilité de créer, parce qu'ils sont étouffés par le métier, les contraintes, le marché public qui est difficile, etc. Mais là, c'était un peu un lieu où ils retrouvaient la foi, comme quand ils étaient jeunes étudiants. Mais quel que soit leur âge, hein, ça, c'était pas juste les jeunes architectes en devenir, c'était vraiment des architectes de tous les âges, de toutes les écoles de pensée. Donc c'est ça, la maison de l'architecture. Et puis,
vous avez transmis...
Il y a le côté initiation de projet. Ce que je peux dire que j'ai en commun avec Anne-Marie, c'est une vision très large.
Ouais.
C'est-à-dire inclusive, si on veut, pour employer un terme à la mode. Là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'exigence de l'excellence. On regarde n'importe quel montage ici, c'est toujours beau, le graphisme est toujours beau. On ne sait pas comment elle y arrive, parce que je sais que ça coûte très cher. Et on arrive toujours ici, à l'école d'art, à faire quelque chose de beau avec à peu près des bouts de ficelle. Mais c'est comme ça qu'on a fonctionné à la maison d'architecture aussi, de cette façon. Mais il y a donc le besoin de faire des choses belles, intéressantes, mais belles.
Ouais.
Et qui touchent les gens, mais qui sont aussi... qui nous implique quand on arrive ici, on est tout de suite inspiré. Ça, c'est un truc que j'ai toujours cherché, moi aussi. Puis, il y a l'autre côté, c'est de ne refuser, c'est-à-dire d'aller chercher donc l'excellence, les meilleurs architectes, les meilleurs auteurs, les meilleurs professeurs, les meilleurs... on voit la liste des gens qui participent ici, c'est toujours... et sans limite, sans se dire « Ah ben c'est juste Sutton, alors on ne prendra pas un tel ». Non, il y a ça.
Puis en même temps, aussi,
oui, une grande ambition. L'idée de laisser de la place aux gens qui sont, même s'ils sont connus, il n'y a rien qui l'arrête parce qu'elle pense qu'elle a une mission importante. Donc moi, je vois ça comme ça aussi. Et en même temps, il y a une absence de jugement sur les niveaux, les âges, l'origine des gens. Donc c'est tous les âges, toutes les écoles, toutes les disciplines artistiques. Aussi.
Ouais.
Ça, c'est une autre chose que j'ai en commun avec Anne-Marie. En architecture, on n'a jamais... on a vraiment abordé toutes sortes de sujets, de toutes sortes de façons, sans se dire, pas intéressant parce que c'est des vieux, ou c'est des petits jeunes. On a vraiment tout ce qui peut être bon et intéressant, qui a du contenu, hop, on le met en valeur et on l'offre au public.
C'est très intéressant, c'est important, je pense, cette ouverture d'esprit.
Oui.
Vraiment.
Et vraiment, sur le plan à la fois géographique, à la fois sur la diversité des disciplines artistiques, d'essayer d'inclure tous les âges sur des sujets auxquels on ne penserait pas d'avance. On dirait, les enfants, OK, ils vont faire du dessin, du bricolage. Non, ils font du cinéma. Ça, c'est tout à fait quelque chose que je me retrouve tout à fait dans cette façon de penser-là.
C'est super. Et pourquoi tu penses qu'il est crucial
qu'on éduque les enfants, qu'on les ouvre à la question du bâtiment, à la question de l'urbanisme, de l'architecture, pour que plus tard, ils aient des choix, qu'ils puissent s'impliquer. Et puis là, y a différentes façons de s'impliquer dans le cadre bâti quand on est adulte. Soit on n'a pas les moyens, on cherche un logement, mais on peut toujours être un citoyen qui vote, qui choisit une administration qui est éclairée à ce niveau, mm-hmm. ou qui on peut toujours décider que tel projet ne le laissera pas passer, on peut aller manifester.
Mm-hmm. Absolument.
Ouais. Et en vertu de quoi? Ben, justement, ça peut être en vertu du fait qu'on nous gâche le paysage, on nous démolit un centre historique, on néglige. On peut s'impliquer comme citoyen, déjà, mm-hmm. en ayant une culture urbaine, une culture architecturale. Et déjà, c'est essentiel de cet aspect-là. Après, ben, quand on a les moyens de se faire construire, on est impliqué comme parent ou comme adulte responsable dans une administration quelconque et qu'on a des décisions à prendre, ben, là encore, on a des choix à faire qui impliquent la construction de la ville, la construction de ce qui concerne tout le monde.
Ouais, ça concerne tout.
Et donc, à chaque étape l'existence, mm-hmm. plus tard, mm-hmm. C'est une bonne chose d'être éduqué, d'avoir le regard éduqué, de connaître, de savoir qu'il existe ailleurs dans mm-hmm. le monde d'autres façons de faire pour mm-hmm. arriver à un meilleur résultat et pour que la ville soit belle et ouais. qu'on y soit heureux. Donc ça, c'est essentiel.
Absolument, oui. Ouais, c'est
la même façon qu'on a besoin d'apprendre à lire et à connaître l'histoire pour être capable de voter intelligemment quand arrivent des élections, par exemple.
Oui, absolument. Ouais.
Bon, absolument. Ben, c'est la même chose.
Prendre un rôle actif
oui, dans la c'est
société.
Ça.
Absolument.
Et donc, c'est d'éduquer des citoyens pour l'avenir et puis des gens éclairés.
Absolument, oui. Et ici, à Sautine, en fait, il y a vraiment une communauté très intéressée par l'architecture.
Oui.
Oui, mais... on a vu ça à nos événements.
Oui, ben oui, vraiment, je suis heureuse de ça. Et ouais. surtout, moi, en fait, je venais à Sautine il y a longtemps. Hein, ma mère habitait ici depuis une vingtaine d'années, tout ça. Et on venait pour oublier la ville et ses stress, et donc admirer les paysages.
Ouais.
Mais... Plus je suis là et plus bon, je vis ici depuis maintenant 2019 à plein temps, mais ouais. on était là depuis 10 ans avant, en tout cas ouais. à long terme. Et je trouve que Sautine est vraiment à la croisée des chemins en ce moment, à un moment capital. Il y a des grosses décisions à prendre sur l'aménagement de la ville mmh. et on est chanceux. Puis là, je veux pas faire politique, mais je trouve qu'on a de la chance d'avoir un maire qui a une vision. Parce qu'on a vu ce que ça... Avant qu'il arrive, on a vu ce que ça peut faire. 2 ou 3 mauvaises décisions. Ça, c'est dramatique parce que le paysage est extrêmement fragile. Il n'y a qu'une seule route principale qu'il traverse. Il suffit de 3, 4 autorisations mauvaises et c'est fichu. Tout est gâché. Donc, c'est un lieu tellement fragile et en même temps qui implique... toutes sortes de... à une échelle quand même compréhensible pour chacun, pour chaque habitant du village, à une échelle humaine, il y a des décisions à prendre, des choses à empêcher, des choses à favoriser. En ce moment même, on a un patrimoine bâti ancien qui a besoin de soins. On a des paysages... encore beaux, mais qui sont menacés par une pression touristique énorme. Il y a la question des stations de ski. Qu'est-ce qu'on fait avec des stations de ski qui n'ont plus de neige? Qu'est-ce qu'on fait avec un lieu qui a été agricole aussi? Qu'est-ce qu'on fait pour favoriser? Enfin, il y a tellement de choses mélangées.
Ouais.
Et tout ça, ça se retrouve sur un petit territoire qui avec toutes les pressions, les tiraillages, il faut du logement, il faut des lieux culturels, il faut
ouais.
c'est passionnant.
Complexe, ouais, c'est passionnant, passionnant. Comme sujet d'étude, absolument.
En plus, il y a plein d'architectes dans le coin.
Ouais, c'est
et,
ça.
Donc,
il y a une communauté très oui. forte. Hein. Mmh. C'est intéressant et je pense qu'on
à Montréal, on s'est découvert des affinités Anne-Marie et moi et puis son projet m'emballe, son projet d'école, c'est sûr. Quand je l'ai connue, elle n'avait pas acheté encore le lieu.
Ouais.
Puis tranquillement, on s'est parlé de ça, les printemps de l'architecture, on avait des belles ambitions qui vont peut-être se faire un jour, mais bon, pour le moment, ce à quoi on a contribué en tant que maison d'architecture, c'est les deux premières expositions, celle de l'atelier In Situ, qui ont présenté le bâtiment ici, de la laiterie. Et ces architectes-là, j'ai fait des expositions avant avec eux, je les connaissais très bien, donc c'était une bonne transition. Et même chose pour l'autre exposition, celle du printemps dernier. Là, c'est moi qui ai pensé et puis qui ai suggéré le sujet, qui portait sur une école qui venait d'être construite à Shefford. Dans le cadre du projet qui s'appelle le Lab École, qui consiste à faire des recherches sur les nouvelles façons de construire des écoles, et en passant par des concours d'architecture, quelque chose à quoi je tiens beaucoup, le concours. Et j'ai trouvé que c'était une bonne façon déjà de s'ancrer dans le local, dans quelque chose qui se passe ici, en montrant qu'il y a à quelques kilomètres d'ici un projet qui est vraiment exemplaire de ce qui peut se faire dans l'avenir, dans la construction des écoles. Et puis, c'était aussi, en me disant, à l'arrière de ma tête, je me disais, si probablement il y a besoin d'agrandir l'école du village ici, eh bien, le directeur aura un bel exemple sous les yeux. C'est-à-dire d'apporter des idées, des exemples pour des choses qui nous concernent dans l'immédiat. Absolument. Donc, c'était l'idée de vraiment contribuer... dans cet esprit-là, puis je vois que l'exposition de ce printemps, elle continue un peu vraiment complètement dans ce sens-là.
Oui, absolument.
Voilà.
Merci beaucoup.
On a eu tellement de belles rencontres pendant cette émission sur les printemps de l'architecture. Maintenant, avec nous, Agathe Frenette, la présidente de l'Association culturelle du patrimoine d'Abercorne, qui va nous parler de sa collaboration avec l'École d'art de Sutton et ses réflexions sur la préservation du patrimoine.
Mais la mission première de l'association, c'est de mettre en valeur la culture, les artistes, les artisans d'Abercorn et plus largement la culture de ce petit village, et aussi de sensibiliser la communauté à la valeur du patrimoine. Quand nous, on parle de patrimoine bâti, mais aussi de patrimoine nature. Alors, la conservation du paysage, pour nous, ça nous parle autant que celle du patrimoine bâti. Ça, c'est une idée qui a fait peu à peu son chemin, qui était moins présente en 2000, disons à Abercorn et dans notre association, qui était moins présente en 2016, mais qui a vraiment bien fait son chemin. Puis, je donnerais comme exemple que quand on est en haut de la côte, sur la rue des Églises Est, qu'on voit les deux clochers, les petites maisons, puis là, on comprend qu'un patrimoine bâti, puis un patrimoine paysage ou nature, ça va ensemble. On ne peut pas les détacher.
Ouais, c'est une belle vue, je sais exactement. Hein? Ouais.
Oui.
C'est l'arrivée là, à Abercorn.
C'est vraiment... Oui, l'arrivée à partir de Sutton.
Ah,
de...
Ouais. Ouais, c'est ça. Vraiment scénique.
Oui.
Donc, en fait, tu as fait un camp de dessin architectural.
Oui.
Ça, vous avez organisé un camp de dessin architectural avec l'École d'art de Sutton.
Avec l'École d'art de Sutton. Alors, dès 2017, Anne-Marie Anne-Marie Lavigne, qui est de l'École d'art, étant tellement active, elle l'était tout autant à ce moment-là. On s'est rencontrés en 2017, dès le début. Elle m'avait dit « on faudrait se parler ». On s'était rencontrés, puis à ce moment-là, on avait une première discussion qui n'avait pas vraiment abouti sur un projet. Mais l'année d'après, c'était le 90e anniversaire d'Abercorn. Puis on voulait faire quelque chose de spécial, mais c'était tout petit, genre un petit concours de dessin pour les enfants, de dessin des maisons. Puis là, à ce moment-là, on a rencontré Anne-Marie, puis on dit, écoute, qu'est-ce que tu pourrais nous suggérer? On aimerait... Puis, alors là, c'est là que l'idée du camp de dessin a surgi. On a fait un camp de dessin pour les jeunes de 8 à 12 ans avec l'École d'art de Sutton. On a fourni En fait, les experts, c'est-à-dire les artistes d'Abercorn, ont soutenu ce camp-là. Mm-hmm. Et le camp se déroulait à Abercorn. On a soutenu tout l'encadrement physique du camp et les experts, en fait, qu'on a recrutés. Et puis aussi, en partie, l'animation du camp. Mm-hmm. Et c'était un camp sur 5 jours. Et les enfants devaient vraiment... dessiner les maisons du centre du village. On avait identifié quelques maisons qui étaient plus patrimoniales, qui avaient une architecture, plus vieille, plus ancienne, disons. Oui. Bon. Et on avait même marché un peu cette rue-là avec une architecte, Nathalie, qui demeure au village. Et puis qui nous avait expliqué un peu chacune des maisons, nous avait aidé à choisir lesquelles on proposerait pour le dessin aux enfants. Mmh. Et chaque jour avait sa technique, son médium artistique. Il y a eu la journée noir et blanc, la journée aquarelle, la journée... et à chaque fois, il y avait un artiste habile avec cette technique-là pour rencontrer les enfants pendant 1 ou 2 heures.
Wow, quelle expérience!
C'était extraordinaire, wow. Extraordinaire. On s'est même déplacé chez quelqu'un qui nous a offert sa cour pour la journée, puis on pouvait là dessiner des paysages aussi, puis... on a vécu des belles choses, puis le produit aussi de ce camp-là était vraiment extraordinaire. Puis, au passage, là, je me souviens de la journée noir et blanc où on avait vraiment... on avait demandé aux enfants de dessiner tous la même maison, mm-hmm. au crayon. Et c'est incroyable comment c'était 12 ou 13 enfants assis qui ont dessiné cette même maison-là de façon différente. C'est incroyable comme on a eu 13 maisons différentes. Ah, c'était ouais. incroyable.
Ah,
et puis moi, je me dis ça, ces enfants-là, ils étaient assis un à côté de l'autre. Mm-hmm. Puis ils s'influençaient même pas.
Ils étaient tellement concentrés.
Ils étaient tellement dans leur... Ouais. Oui, dans leur style. Chacun leur style. Mm-hmm. C'était quand on a mis ça sur les murs après, là, c'était mm-hmm. vraiment une belle réalisation.
Donc c'est vraiment une façon, en fait, d'intéresser les jeunes à l'architecture patrimoniale. C'est de faire dessiner.
Ah oui, c'est une des manières. Puis j'allais dire, pour intéresser les jeunes, je pense qu'il faut les mettre en action. Mmh. Et ça a été une des manières, oui, de les intéresser. Je pense que pour les mettre en action, il faut les soutenir aussi. Mmh. Il y avait des adultes pour leur suggérer des choses, les aider, pour peaufiner leur idée. Mmh. Ça aussi, ça jouait un rôle important. Mm-hmm.
L'encadrement, et puis de les faire bouger dans l'espace,
mais les amener, découvrir, puis développer ce qu'ils sont, ce qu'ils sont eux-mêmes, puis avec leur propre personnalité, leur propre manière de faire, mais les aider à aller un peu plus loin dans ce qu'ils sont. Oui, absolument. Oui, c'est une manière de faire. Certainement que le geste, mm-hmm. ça compte. C'est plus que de regarder, oui.
Mmh. Ou de se faire dire que c'est important. Finalement, c'est de vivre pourquoi, d'explorer, d'observer.
Oui. Wow. Oui, se faire dire. Puis on a nos affiches villages. On a tiré des affiches villages de certains dessins noirs et blancs en les apportant à notre designer graphique,
Marie.
Oui. Qui a fait des fonds, des couleurs et tout ça. Et les enfants, là, les enfants dont les affiches ont été choisies, c'est incroyable, c'est la fierté qu'ils ont que leur œuvre soit dans une affiche. Ça aussi, ça crée quelque chose dans leur tête. Ça fait des images qui donnent de la valeur au patrimoine.
Mmh. C'est vraiment valorisant, en fait, d'être inclus, en fait.
Oui.
Et en fait, vous avez travaillé en collaboration avec l'École d'art et vous travaillez en collaboration avec d'autres organisations culturelles.
Oui.
Et comment est-ce que, en fait, les organisations peuvent travailler ensemble pour mieux se soutenir, collaborer, puis sensibiliser le public aux importances?
Si je prends par exemple nos projets avec l'École d'art, c'est très soutenant de ne pas être seul pour une organisation, d'abord. Et je crois que quand on travaille, c'est important d'être ensemble, mais c'est pas toujours facile. C'est ça. Et pour la principale raison que nous avons chacune nos missions. Alors, quand on travaille ensemble, il faut trouver la manière de travailler ensemble en respectant chacun notre mission. Puis ça vaut la peine d'y passer du temps. Mm-hmm. Et puis de se dire, qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous êtes à l'aise, vous êtes à l'aise avec ce type d'intervention-là? Il faut respecter notre mission quand on s'associe à un autre organisme. Mm-hmm. Et puis, c'est bien sûr qu'on peut, être plusieurs OBNL ensemble, mais je crois que les acteurs clés, ça reste les élus.
Oui.
Ça reste les élus, puis il ne faut pas les oublier dans nos projets de collaboration.
Mm-hmm.
Puis c'est sûr qu'on va toujours... quand on pense à eux, on pense à aller chercher de l'argent.
Mm-hmm.
Mais pourquoi on ne penserait pas un peu plus loin à qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec nous, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble dans notre projet, plutôt que d'être toujours à la porte, frappé pour avoir de l'argent. Mais c'est sûr que c'est là qu'on va aller chercher de l'argent en premier.
Mm-hmm.
Mais il faut aussi travailler avec eux l'importance du patrimoine.
Mm-hmm.
Et puis comment ils peuvent contribuer autrement que monétairement. Et puis il faut parler de nos projets aux élus. Leur raconter ce qu'on fait, leur raconter, des fois, le bonheur qu'on a à le faire aussi.
Oui.
Il faut qu'ils voient que c'est important pour nous, que c'est important pour une partie de la population.
Mm-hmm.
Et c'est ça. Il faut vraiment les avoir comme alliés de cœur aussi.
Mm.
Pas juste monétaire.
Oui.
Oui. Puis, je reviens aux enfants.
Oui.
Il y a quelque chose, les enfants, quand ils grandissent, on dit les jeunes, mais moi, tu sais, ça fait, si on pense quand de dessin, là, ça fait enfant aussi. Les enfants, ils grandissent en observant les adultes.
Mm-hmm.
Alors, les décisions qu'on prend par rapport à ces sujets-là de patrimoine et de culture, il faut se dire qu'on est observé par la génération qui s'en vient aussi. Et il faut absolument développer une cohérence dans ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alors, si, par exemple, là, je donne un exemple qui est peut-être un peu négatif, mais je trouve que c'est un bon exemple. Si, par exemple, il y a des décisions qui sont prises pour déconstruire une valeur patrimoniale ou pour mettre le fil dedans parce que c'est trop vieux, c'est dangereux, sans même qu'on ait pris le temps d'explorer la possibilité d'avoir des subventions ou la possibilité d'avoir la possibilité de rénover, là, puis qu'on décide de détruire parce que ça coûte moins cher, nous sommes observés par ceux qui nous suivent.
Mm-hmm.
C'est peut-être pas pour l'avenir la meilleure décision qu'on aura prise, puis on n'aura pas un discours très cohérent si on met de l'avant la beauté de notre village, là.
Merci de vous être joint à nous pour cette heure de réflexion, de conversation au sujet de l'architecture. Pour finir l'émission, on a avec nous Serge André Jones avec sa magnifique pièce de piano, Le Tunnel. Thank you. Ce projet est rendu possible par le gouvernement du Canada ainsi que le Fonds canadien de la radio communautaire.